Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Comment on dit bonjour, bon réveil en langue Shaddock? Ben, je sais pas. Ga, bou, zou, miam. En tout cas, bonjour tout le monde. Nous sommes le lundi 13 juin et toute cette semaine, on se réveillera avec les Shaddocks, cette série télé animée qui a marqué la France de post-68. Bientôt, une grande expo consacrée au monde des Shaddocks à 7, au Musée des Arts Modestes, of course. On en parle aux alentours de 6h15 avec Norbert Dufort, son commissaire général. Mais avant, c'est notre tête chercheuse de la semaine, l'universitaire Sébastien Denis, qui va nous raconter la saga des Shaddocks. Un autre jour est possible, la culture au réveil, c'est parti!
C'était il y a très 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 longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shaddock.
Les Shaddocks, analyse d'un phénomène télévisuel unique par Sébastien Denis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en études cinématographiques à l'université de Picardie Jules Verne, agrégé d'art plastique et docteur en histoire du cinéma et vous publiez chez Lina les Shaddocks, histoire, esthétique et pataphysique. Aujourd'hui, premier épisode, les sources littéraires de cette série télé, mais pour parler de la naissance de cette série télé, il faudra peut-être préciser tout de suite, dès le premier épisode, l'importance de l'animation et puis surtout de l'animographe. C'est quoi l'animographe ?
Alors l'animographe, c'est une machine qui a été inventée par un dessinateur et aussi inventeur qui s'appelait Jean Dejoux. Qui était assez célèbre en fait à l'époque dans la presse, qui faisait beaucoup de dessins de presse et qui à la fin des années 50 a commencé à réfléchir à une manière de faire de l'animation pas chère, hein, puisque le but c'était de copier finalement ce qui se faisait un petit peu aux États-Unis avec ce qu'on appelle la limited animation, c'est-à-dire une animation limitée, une animation qui demande moins d'argent. Et tout simplement parce qu'elle demande moins de dessins. Et il a inventé une machine qui s'appelle donc l'animographe. Il l'a pensée à la fin des années 50, il l'a brevetée au tout début des années 60, et il l'a construite grâce au service de la recherche de l'ORTF, hein, grâce à Pierre Schaeffer et à son équipe, dans l'année 62. Et donc, du coup, l'animographe a servi à produire la première saison uniquement des Shaddocks.
Diffusée en 1968.
Et l'animographe est une machine qui permet de limiter donc le nombre de dessins. On travaille sur une bande perforée de 70 mm, hein, c'est du film 70 mm. Et donc ça veut dire qu'on doit travailler sur des petits carrés de 6 cm, des petits rectangles de 6 cm sur 7 hein, environ. Donc avec une surface de travail très limitée, ce qui nécessite du coup d'avoir un dessin qui lui-même est limité. Mais c'est ce qui a permis, hein, l'animographe a permis, donc qui a été créé vraiment au début des années 60, il a permis de créer les Shaddocks. Sans l'animographe, pas de Shaddock. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment l'outil qui a créé finalement, qui a généré de la part de Rouxel.
Le créateur, donc Jacques Rouxel.
Jacques Rouxel, le créateur des Shaddocks, c'est ça qui lui a permis de penser même à cette série à partir de petits personnages qui étaient donc ces oiseaux qu'il dirait, peut-être on en parlera un autre moment, d'un autre très grand dessinateur américain cette fois-ci qui s'appelle Steinberg.
Bien sûr, on parlera de toutes les sources.
On parlera de toutes ces sources-là.
Et sans doute,
mais,
demain, oui.
Et voilà, donc l'animographe, il faut rendre hommage à Jean Dejoux, puisque sans lui, effectivement, il n'y aurait pas eu, tout simplement, les Shadok, tout comme il n'y aurait pas eu un certain nombre d'autres expérimentations qui se sont faites au service de la recherche. Donc c'est vraiment un outil très, très important qui permet de créer, en fait, l'esthétique des Shadok.
Alors, comment est née cette série? Maintenant, on sait un peu le contexte technique. Comment est née cette série?
Alors, elle est née parce que, justement, le service de la recherche de l'ORTF, dirigé par Pierre Schaeffer, était à la recherche, depuis justement la création de l'animographe, à la recherche de séries et de petites productions à faire sur l'animographe. Et il se trouve que Jacques Rouxel est arrivé finalement au moment où l'équipe du service de la recherche était en train de chercher quelque chose. Et il est arrivé avec ce concept visuel des Shadok. Mmh. Ça, c'était en 65. Et à partir de 65, donc Rouxel a travaillé au sein du service de la recherche et il a développé, il a cherché, il a fait un développement vraiment graphique. Il a aussi travaillé sur d'autres films, hein, c'est intéressant de le savoir. Il n'a pas fait que les Shadok au service de la recherche, il a travaillé sur d'autres films d'animation, en particulier avec Piotr Kamler qui était un immense animateur. Il a écrit, il a coécrit, il a travaillé et puis à un moment donné effectivement, il a proposé ce concept en 1965 qui a mis du coup quasiment 2 ans à se mettre en place et donc à partir de 67 il y a eu la production effectivement à proprement parler après plusieurs essais en 65 et surtout dans l'année 66 après différents essais il y a eu la mise en production d'une première partie en fait qui était un test pour vérifier qu'on pouvait faire les Shadok.
Et des personnages anthropomorphes étaient déjà là. Ils avaient déjà cette apparence d'oiseau randouillard.
Alors oui, très tôt en fait, les Shadok ont existé. Après, il y a plusieurs. Il a fait du développement à la fois sur les Shadok et sur les gibis. Donc il y a plusieurs essais. Mais dans les faits, les Shadok sont très proches de l'origine. Et c'est là qu'il faut à nouveau rappeler Steinberg, puisque ces oiseaux-là, il les reprend vraiment de Steinberg. Et du coup, c'est quelque chose qui, il le reconnaît. Et il reconnaît une dette énorme envers Saul Steinberg. Donc oui, non, ça n'a pas beaucoup varié, on va dire.
Donc c'est une création qui va avoir lieu dans la France de toutes les contestations. Sébastien Denis, c'est pour ça que vous êtes là avec nous toute cette semaine, pour nous raconter ce que racontent les Shadok de l'époque où ils ont été créés, et aussi pour parler des influences. Et aujourd'hui, on va parler des influences littéraires, parce que Jacques Rouxel a été influencé par quelques écrivains, par quelques écrits, pour créer ces personnages.
Alors Jacques Rouxel avait pas une vision intellectuelle des choses. C'était quelqu'un qui vivait très complètement, de manière très intense, la vie, mais il n'était pas dans un trip intellectuel. Lui, il voulait faire rire. Lui, sa base, en fait, c'était les comics américains. C'était donc ça, on en reparlera. C'est pour ça qu'il était aussi influencé par Steinberg. Mais ça, c'était pour le visuel. Pour ce qui était du littéraire, finalement, ce qu'il a marqué depuis très longtemps, c'est une série de sources très différentes. Mais il a été marqué en particulier par le monde anglophone, au sens large, puisqu'il a vécu une partie de son enfance, adolescence à New York. Donc, il comprenait l'anglais et il aimait l'humour britannique en particulier. Et le monde globalement du nonsense, c'est-à-dire qu'il avait une vraie passion pour Lewis Carroll, pour le créateur d'Alice au pays des merveilles, pour ces questions d'inversion des mondes, de renversement. Hein, donc le nonsense pour lui avait une importance particulière. Donc on va dire que il y a cette branche-là de la littérature qui est dans le monde anglophone. Et puis dans le monde francophone, il a été tout à fait passionné par la pataphysique. Hein, il était intéressé par ça, même sans en être spécialiste, Ubu lui parlait, on va dire, ce monde d'Ubu lui parlait, et il avait aussi d'autres références qui étaient en particulier Alphonse Allais, c'est-à-dire que là c'était encore un autre type, mais à peu près à la même période, à la fin du 19e siècle, dans cette littérature qui essayait de sortir des canons traditionnels, et donc il était un grand fan d'Alphonse Allais, qui était vraiment un spécialiste du calembour, de l'absurde. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a compté quand même beaucoup pour lui. Et puis des sources plus contemporaines avec avec Queneau en particulier. Il était un grand fan de Queneau. Donc Queneau à cette période-là était en train de monter l'Oulipo. Avec le Lyonnais, donc c'était un autre champ, même si bon, je pense pas qu'on puisse dire vraiment qu'il soit influencé par l'Oulipo, mais c'est un contexte, on va dire, général, dans lequel tout ça, c'est des gens qui travaillent sur la logique, qui expérimentent et qui expérimentent la langue, c'est-à-dire qui travaillent sur des questions de logique et de paralogique. C'est-à-dire comment on crée une logique à partir d'un sens erroné, c'est-à-dire comment on construit finalement un raisonnement qui devient absurde tellement il est juste, mais parce qu'il part aussi de quelque chose de faux. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans une autre source, mais plus en théâtre cette fois-ci, qui est reconnue par, qui a été reconnue par lui à l'époque, qui était Ionesco. Ionesco a été un de ses modèles parce que justement, il pensait à travers des pièces comme Rhinocéros, par exemple, l'absurdité du monde contemporain, ça le permettait, voilà, de reconfigurer finalement le monde, de créer une sorte de monde parallèle. Donc, mais il y a d'autres sources, hein, donc je sais pas desquelles vous voulez parler maintenant, mais
on parlait des sources littéraires, mais effectivement, vous avez raison de préciser qu'on peut élargir les sources littéraires à la bande dessinée, puisque ce fut aussi une bonne période pour la bande dessinée française.
Oui, alors absolument. Alors cela dit, peut-être avant quand même de parler de la BD, il y a quand même aussi d'autres sources qui peuvent être notées. En particulier, il s'est toujours dit amoureux du roman de Renard. Et là aussi, il y a une question d'inversion des valeurs. De montrer en fait à travers des figures animales un monde inversé et une inversion des valeurs de la société. Et je pense que c'est vrai qu'on en parle assez peu finalement du roman de Renard, mais je pense que c'est une piste qui mérite d'être vraiment travaillée, parce que il y a ce rapport à l'animal, hein, à l'animalité, tout comme chez Ionesco par exemple, hein, par rapport à Rhinocéros, on a cette question finalement de l'animalité. Donc lui, bah, il prend ses modèles ces choses qui existent dans la littérature de l'époque, et il les transcrit, je crois, tout simplement, en gardant toujours à l'esprit quelque chose d'absurde, l'absurdité, le côté comique. C'est-à-dire que lui, il veut créer un comique qui, en même temps, amène sans doute à réfléchir, mais qui soit quand même fait pour rire, pour faire rire. Hein. C'est un comique qui veut faire rire le public.
Et ce qui n'empêche pas une certaine poésie, c'est pour ça que je vous ai mis sur la piste de la bande dessinée. Je voulais que vous citiez Fred, bien sûr.
Oui, Fred est un immense bédéiste de cette même période, et c'est quelqu'un dans lequel, je pense, on peut trouver une même passion pour l'inversion, là aussi. C'est-à-dire, il y a la question, et pour Alice au Pays des Merveilles, hein, c'est cette question finalement de passer de l'autre côté du miroir, d'être dans une représentation du monde, mais qui en même temps évidemment nous amène dans une autre et dans quelque chose de très poétique, de très libre. Donc chez Fred, on retrouve, oui, une certaine forme de cocasserie, en même temps d'interrogation du monde qui est parfois un petit peu dur.
C'est une interrogation du monde où ça reste quand même dans la naïveté, ce ne sont que notre analyse qui font qu'on projette autant de références, autant d'interrogations. Ça a toujours été le beau mystère de Philémon, hein, et ça le reste plus que jamais d'actualité avec les Shadocks.
Oui, c'est sûr qu'on projette beaucoup, et là, bon, là, c'est mon travail, du coup, d'historien des médias, et de réfléchir à ça. En même temps, c'est des sources qui sont avéré à l'époque, c'est-à-dire pour ce qui concerne Jacques Roussel. Mmh. Après, la proximité qu'on peut trouver entre Roussel et Fred, c'est justement cette manière de pas se prendre la tête, quoi. C'est-à-dire que ce sont pas des intellectuels. Ils ont une volonté de proposer un monde différent, de rêver le monde, ou de le cauchemarder, d'ailleurs, aussi, mais sans forcément avoir une approche intellectuelle, sans même du tout avoir une approche intellectuelle. Donc, évidemment, là, oui, il y a une forme de projection. Cela dit, je pense qu'ils étaient quand même très conscients, et l'un et l'autre, que même sans être des intellectuels, ils créaient des mondes. C'est vraiment des créateurs de mondes, des créateurs d'univers. Ils étaient tout à fait conscients de la puissance des mondes qu'ils créaient. Et en ça, bon, il n'y a pas besoin d'intellectualiser, forcément.
Les Shadocks, analyse d'un phénomène télévisuel unique avec Sébastien Denis. Vous restez avec nous toute la semaine. Demain, on parlera des sources artistiques et notamment visuelles pour la création de cette série. Et je ne sais pas si vous le savez, mais vendredi, c'est-à-dire le week-end prochain, on pourra assister à une très grande expo consacrée au monde des Shadocks et à 7 au Musée des Arts Modestes. On en parle dans un instant. Vous pouvez rester avec nous, Sébastien Denis. On reçoit dans un instant donc Norbert Dufort, le commissaire général de l'Expo.
Un jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Mon invité culturel a dû danser lui aussi sur les Doors. Bonjour Norbert Dufort.
Bonjour, en effet.
Bon, et vous êtes le commissaire général de cette exposition consacrée aux Shadocks. Vernissage vendredi prochain, on peut y aller dès samedi prochain. Et c'est bien sûr au Musée international des Arts Modestes, à 7, qui plus est. Alors, d'abord, pourquoi les Shadocks en grande expo aujourd'hui en 2016?
Alors, pourquoi une grande expo aujourd'hui? Parce que tout simplement, les héritiers de Jacques Rouxel, qui est décédé il y a une douzaine d'années, avec peut-être un peu de retard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, ont décidé de valoriser cet incroyable fonds Rouxel, composé de l'ensemble de ses travaux préparatoires à la série mythique des Shadocks.
Soigneusement gardé, donc.
Gardé dans un endroit étrange, pas plus grand que votre studio, dans lequel il n'y a pas l'électricité, qui était le bureau historique de Jacques Rouxel, et que j'ai découvert lorsque les héritiers de Rouxel, qui sont en réalité la société que Rouxel a créée lui-même, qui s'appelle la société 3A Productions, a sollicité le MIAM pour cette expo.
Alors, les Shadocks, ça parle aux plus de 30, non, 40, non, 50, allez bon, aux plus de 50 ans, mais comment raconter cette histoire, cette saga, aujourd'hui, à tout le monde?
Effectivement, c'est un challenge, parce que il y a un double challenge. Le premier, c'est de faire une exposition comme le MIAM les fait habituellement, c'est-à-dire il y a dans l'ADN du MIAM de croiser les pratiques populaires, savantes, l'art contemporain, l'art singulier, etc. Et d'autre part, effectivement, de raconter cette histoire à des générations qui n'ont pas la même relation avec
voilà,
cette histoire.
Rien à voir avec l'autre exposition que vous avez organisée autour de Groland, parce que l'émission était encore en cours.
Exact. Mais nous avions préalablement encore organisé, il y a une douzaine d'années, une exposition autour du Manège Enchanté, où nous avions déjà cette difficulté. Alors, le pari a été très simple, c'est de dire, il faut d'abord montrer les séries. Donc, nous sommes en train d'installer, au cœur du musée, au cœur de l'exposition, des cabines qu'on voudrait domestiques, n'est-ce pas ? Où le public est invité à s'asseoir et à découvrir la série 1, la série 2, la série 3 et la série 4.
Y compris la série 4 qui a été réalisée bien après.
Oui, y compris la série 4 qu'on présentera dans des conditions un peu différentes. Mmh. Hein, pour montrer...
C'était déjà une série en hommage à
voilà,
une série
tout à
mythique.
Fait, tout à fait, dans laquelle Roxelle n'a pas joué le rôle essentiel qu'il a joué dans les trois premières. Donc ça nous paraît indispensable, parce qu'on parle tout de même d'une série télé. Donc si on ne la montre pas, on n'a pas la base.
Mais sinon, une fois qu'on a vu les Shadok dans notre petite cabine, qu'est-ce qu'on peut admirer? C'est quoi? Faites-nous le tour de cette expo, Norbert Dufort.
Alors, le concept, enfin, j'aime pas trop ce terme concernant Roxelle, n'est-ce pas? L'idée de cette exposition, c'est de, à la fois, de replonger les Shadok et Roxelle dans leur époque, et surtout de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'héritage des Shadok. Et pour nous, c'est évidemment un héritage artistique qui nous intéresse. Alors, on va rentrer dans une introduction qui sera 1968, non pas les événements, mais la naissance des Shadok. Et là, on verra, par exemple, des affiches réalisées par l'Atelier populaire de l'École des Beaux-Arts de Paris, époque, je vous rappelle, où la télévision était uniquement publique, hein, et où l'écran de télévision... porter la silhouette du général de Gaulle, par exemple, avec toute la contestation qui va venir. Parce que n'oubliez pas que les Shadok avaient un sens particulièrement aigu de la situation, parce qu'ils sont apparus quelques jours avant les événements de mai 68. Ils sont apparus le 29 avril. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'ensuite, l'écran est devenu noir. Il a fallu attendre quelques mois pour qu'ils réapparaissent. Donc, on va voir cette contextualisation. Et ensuite, on va se promener dans l'exposition... Et l'exposition est construite autour des thématiques de Roxelle. Le langage, l'espace, la machine. Sans parler évidemment d'un certain nombre de dérives plus ou moins scientifiques, du genre l'ufologie par exemple. Parce que vous savez que les Shadok sont des grands spécialistes de l'ufologie. Tout ça parce qu'ils ont des grandes pattes et que quand ils pondent des œufs, les œufs se cassent. Donc il va falloir qu'ils inventent des œufs qui ne se cassent pas. Mais les œufs qui ne se cassent pas sont des œufs qui ne s'ouvrent pas. Donc quand on ouvre des œufs longtemps, longtemps après, il sort des Shadok fatigués, au bord de la mort, n'est-ce pas? Donc c'est quand même une réflexion philosophique extrêmement intéressante. Et on y verra, entre autres, une collection invraisemblable. Appartenant à une dame totalement inconnue de moi jusqu'à il y a peu de temps, qui depuis 40 ans collectionne des œufs. Et donc se réjouit évidemment de participer à cette ufologie. Mais on verra aussi, vous en avez parlé avec votre invité, on verra des œuvres qui marquent des références pour Roxelle. Un très beau miro dont on pourrait se dire à un moment donné qu'il a été fait à deux mains avec Roxelle. Des estampes de Jarry qui ont servi à faire les couvertures de certaines de ces pièces. On verra de très beaux tinguelis, hein, les machines improbables, n'est-ce pas, qui marchent dans des logiques illogiques. On verra des formes qui se déforment, comme la planète Shadok, n'est-ce pas? Je pense à Bertrand Lavier, par exemple. On verra des artistes contemporains qui jouent avec le langage, Jacques Villeglé, Joël Hubeau. Ben, évidemment, incontournable dans
Ben,
cette affaire.
Justement. Alors pourquoi, par exemple, vous avez décidé que Ben était dans un enfant des Shadok ou de cette de ces artistes autour de Roxelle, de la télévision expérimentale de la fin des années 60 et du début des années 70.
Alors bon, nous au Miam, si vous voulez, on est plutôt des gens qui nous intéressons aux arts visuels. Donc, on connaît notre histoire. Donc, Roxelle, on pourrait dire, c'est à la fois le cinétisme et Fluxus, pour ceux qui s'intéressent à ces questions. C'est-à-dire qu'effectivement, le rapport image-texte est très important chez Roxelle. On n'en parle pas assez. D'ailleurs, je signale au passage que nous allons publier à l'automne, pour la première fois, un accord enthousiaste avec sa veuve, Marcel Ponty, Roxelle, l'intégrale des textes Shadok, qui sortiront sans images. Parce qu'il y a un travail sur le texte chez Roxelle, qui est assez fascinant. Pour moi, qui me replonge dans cette affaire à l'occasion de ce commissariat, je n'arrête pas, si vous voulez, de faire des découvertes.
Et pour Ben, pourquoi Ben et pas alors, Jean-Christophe Averty, par exemple?
Pourquoi Ben? Bon, Ben est un artiste contemporain, on va dire, à la fois populaire et parfois mal positionnés. C'est un vieux monsieur aujourd'hui, il fête ses 80 ans et les Shadok fêtent leurs 50 ans. Donc, il y a chez Ben un jeu avec la langue, si vous voulez, qu'on retrouve en permanence chez Rouxel. Rouxel, effectivement, c'est un homme qui aime les mots. Et j'ai la faiblesse de penser qu'il aime d'autant plus les mots qu'il parle une autre langue. Parce que ce séjour au lycée français de New York pendant 4 ans, entre de mémoire 14 et 18 ans, ça laisse des traces tout de même dans la relation à votre propre langue. Donc il y a là une relation au langage qui est formidable.
Norbert Dufort, pour vous personnellement, que les Shadoks, qu'est-ce que ça représente? Plutôt une époque, plutôt un courant artistique de cette époque-là?
Alors c'est toujours des souvenirs personnels. Ce sont toujours des souvenirs personnels, si vous voulez.
Mais au-delà de la Madeleine de Proust, qu'est-ce qui reste?
Il reste quand même l'attachement que nous portons aussi avec l'équipe du Miam à des logiques qui ne sont pas cartésiennes, mais qui existent en tant que logique, n'est-ce pas? Je crois que c'est tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat.
Pour terminer, puisque Sébastien Denis est avec nous, vous avez quelque chose à rajouter à propos de ce que vient de dire Norbert Dufort?
Non, bah écoutez, ça s'annonce une exposition tout à fait passionnante parce qu'effectivement, ça croise tout un tas d'influences. C'est-à-dire, ça montre, du coup, concrètement, ça va permettre au public de voir tout un tas de choses sur lesquelles moi je travaille aussi dans le bouquin et qui sont effectivement des influences à la fois visuelles et littéraires, aussi musicales, j'imagine. Enfin, c'est un univers et cet univers-là, il mérite d'être montré. C'est vrai qu'il est extrêmement puissant en fait. Et du coup, c'est vrai que simplement le langage ne suffit pas à ça. Donc, je suis très impatient de voir cette expo.
Pour partir de quelque chose de très actuel aujourd'hui et remonter jusqu'au Shadok, qui sont les enfants des Shadok?
Nous sommes un peu tous des Shadok, en tout cas nous l'espérons.
Norbert Dufort, ouais.
Nous l'espérons. Et ce que j'ai omis de dire tout de même concernant l'exposition, c'est peut-être le plus important, c'est que nous vous invitons à venir pomper, évidemment.
Bien sûr.
Parce que sinon, c'est pas la peine de venir au Miam. Vous viendrez pomper au Miam. Et nous appelons de nos voeux tous les pompeurs et toutes les pompeuses pour pomper ensemble dans la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas?
Sébastien Denis, le dernier mot avant qu'on vous retrouve demain pour parler des Shadok.
Je crois que d'une certaine manière, effectivement, il faut retourner au pompage parce que sinon, il y a pas tellement de. C'est quelqu'un qui a fait une œuvre unique, Rouxel, et je pense qu'il faut rester sur cette idée-là. Il n'a pas vraiment de descendant aujourd'hui dans l'audiovisuel, ni en France, ni ailleurs.
D'où le caractère unique. Mais on va en parler demain, toujours avec vous, Sébastien Denis. Je rappelle le titre de votre ouvrage édité par Lina, Les Shadok, histoire esthétique et pataphysique. Et je rappelle que l'expo, la grande expo sur les Shadok, autour du monde des Shadok, c'est à 7 au Musée des Arts Modestes. Ça commence le week-end prochain. C'était un autre jour est possible avec Anaïs Isbert, Pascaline Bonnet, Thomas Duterre et aujourd'hui à la technique Yanis Djoudad. Vous pouvez réécouter cette émission en passant par franceculture.fr, réécouter ou podcaster et partager le podcast avec qui vous voulez. Bonne matinée, à demain.